Chapitre 5. Le don de la loi. Qui écouter? À qui être soumis? Et Moïse appela tout Israël et leur dit, « Écoute, Israël, les statuts et les ordonnances que je prononce aujourd'hui à vos oreilles. Vous les apprendrez et vous les garderez pour les pratiquer. » Verset 1. Nous retrouvons ici ces mots caractéristiques du livre du Deutéronome, et important pour le peuple de Dieu en tout temps, écouter, apprendre, garder, pratiquer. Écouter, voilà l'attitude la plus bénie où nous puissions nous trouver. La foi est de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. J'écouterai ce que dira Dieu l'Éternel. Psaume 85, verset 8. Écoutez, et votre âme vivra. Ésaïe 55, verset 3. Avoir une oreille attentive est à la base de toute vie chrétienne réelle et pratique. C'est la seule attitude qui convienne à la créature. C'est le secret de la paix et de la bénédiction. Il est à peine nécessaire de rappeler que, lorsque nous parlons de l'âme dans l'attitude d'écouter, nous supposons que ce qui est écouté est uniquement la parole de Dieu. Israël devait écouter les statuts et les ordonnances de l'Éternel, et pas autre chose. Ce n'était pas aux commandements, aux traditions et aux doctrines des hommes qu'ils devaient prêter l'oreille, mais aux paroles du Dieu vivant qui les avait sauvés et délivrés du pays d'Égypte. On parle quelquefois de l'obéissance et de la soumission à l'autorité ecclésiastique. Prenons garde. Si nous devons nous soumettre à une autorité, il s'agit de connaître la source ou la base de cette autorité. Ne soyons pas de ceux qui estiment commode d'avoir leur ligne de conduite toute tracée par des personnes plus compétentes. Que chacun estime soigneusement, en présence de Dieu, quelle est la base de l'autorité à laquelle il se soumet. Sans cela, il court le risque de se trouver dans une position tout à fait fausse. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, verset 29. Nous avons là, dans sa forme la plus simple, le devoir de tout vrai chrétien. Il doit obéir à Dieu. Le chrétien est mis à part pour l'obéissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire pour avoir la même obéissance que celle que notre adorable Seigneur et Sauveur lui-même rendait à Dieu. 1 Pierre 1, verset 2. En entrant dans le monde, il dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Hébreux 10, verset 5 et 7. C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Psaume 40, verset 8. Mais devons-nous mettre d'emblée de côté toute soumission à des hommes? Certainement pas. Il est écrit, « Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent pour vos âmes comme ayant à rendre compte, afin qu'ils fassent cela avec joie et non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable. » Hébreux 13, verset 17. Ou aussi, nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur et qui vous avertissent, et de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. 1 Thessaloniciens 5, versets 12 et 13. Et encore, je vous exhorte, frères, vous connaissez la maison de Stéphanas, quelles sont les prémices de l'Achaïe et qu'ils se sont voués au service des saints, à vous soumettre vous aussi à de tels hommes et à quiconque coopère à l'œuvre et travaille. 1 Corinthiens 16, versets 15 et 16. Lorsque Christ confère un don spirituel, que ce soit le don d'enseignement, de direction ou de surveillance, c'est le devoir et le privilège des chrétiens de reconnaître et d'apprécier de tels dons. Mais nous devons nous rappeler qu'en pareil cas, il faut que le don soit une réalité, une chose reconnaissable. Lorsqu'un homme s'empare d'un certain office, ou qu'il est établi et consacré par ses semblables pour un soi-disant ministère, cela n'a aucune valeur quelconque. Un vrai ministère est nécessairement basé sur la possession d'un don positif du Christ, chef ou tête de l'Église. S'il n'y a pas de don, il n'y a pas de ministère. Dans tous les passages cités plus haut, nous voyons des dons réels et un travail accompli. Nous voyons en outre de l'amour pour les brebis et les agneaux du troupeau de Christ. Nous voyons une grâce et une puissance divine. En Hébreux 13, il est écrit « Obéissez à vos conducteurs ». Or, il est essentiel qu'un conducteur marche avec ceux qu'il conduit. Ce serait folie à quelqu'un de se donner pour guide s'il était ignorant de la route, s'il ne pouvait ou ne voulait y marcher. Qui songerait à suivre un tel homme? De même, lorsque l'apôtre exhorte les Thessaloniciens à connaître et à estimer certaines personnes, sur quoi base-t-il son exhortation? Non sur la possession d'un titre, d'un office ou d'une position quelconque, mais sur le fait certain que ces personnes étaient à la tête parmi eux dans le Seigneur, et qu'elles les avertissaient. Et si on devait les estimer très haut en amour, ce n'était pas à cause de leur charge ou de leur titre, mais à cause de leur œuvre. Et pourquoi les Corinthiens étaient-ils exhortés à se soumettre à la maison de Stéphanas? Parce qu'ils s'étaient voués au service des saints. Ils étaient à l'œuvre. Ils avaient reçu le don de grâce de Christ, et ils avaient de l'amour pour son peuple. Ils ne se vantaient pas de leur office ou de leur titre, mais se donnaient entièrement au service de Christ, en la personne de ses rachetés. Voilà le vrai principe du ministère. Ce n'est en aucune façon une autorité humaine, mais un don divin, une puissance spirituelle communiquée par Christ à ses serviteurs, exercée par eux sous sa dépendance et reconnue avec gratitude par ses saints. Un homme peut se donner comme pasteur ou docteur, il peut aussi être nommé à cet office par ses semblables, mais s'il n'a pas reçu un don réel du chef de l'Église, tout cela n'est que vaine parole, vide de sens et de force. La voix de ce berger est la voix d'un étranger que les vraies brebis de Christ ne connaissent pas et ne doivent pas reconnaître. Mais, d'un autre côté, nous n'aurons pas de peine à reconnaître et à apprécier le docteur enseigné de Dieu, le fidèle et infatigable pasteur qui veille sur les âmes, qui pleure sur elles, qui les soigne comme une tendre mère. Le vrai ministère a sa source en Dieu. Il repose sur l'autorité divine, et son but est d'amener les âmes à la présence de Dieu et de les attacher à lui. Le faux ministère, au contraire, a sa source en l'homme. Il repose sur une autorité humaine, et son but est de s'attacher des âmes. Dans tous les cas où il y a un don réel, c'est notre privilège de le reconnaître et de nous y soumettre. Lorsqu'il en est ainsi, nous discernons Christ dans la personne et dans le ministère de ses bien-aimés serviteurs. Un cœur spirituel n'aura pas de difficulté à discerner la grâce et la puissance réelle. Nous pouvons aisément dire si un homme cherche avec amour à nourrir nos âmes du pain de vie et à nous conduire dans les voies de Dieu, ou bien s'il cherche à s'élever lui-même et à avancer ses propres intérêts. Ceux qui vivent près du Seigneur distinguent bien vite entre la vraie puissance et de vaines prétentions. En outre, nous ne verrons jamais les vrais ministres de Christ faire parade de leur autorité ou se vanter de leur charge. Ils font leur œuvre et la laissent parler pour elle-même. En conclusion, nous reconnaissons tout vrai ministère dans l'Église, et nous nous soumettons à ceux que le Seigneur juge capables d'être nos pasteurs, nos docteurs et nos guides. C'est en parfait accord avec le grand principe fondamental « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Le chapitre ouvert devant nous, de même que le livre tout entier du Deutéronome, nous montre Moïse cherchant à persuader la congrégation d'Israël de la nécessité d'une obéissance entière à la parole de l'Éternel et à tous les statuts qu'il avait donnés. Il ne recherchait pas l'autorité pour lui-même et ne domina jamais sur le peuple de Dieu. Du commencement à la fin, il prêcha l'obéissance non à lui-même, mais à celui qui était son Seigneur et le leur. Ils savaient que là était le secret de leur bonheur, de leur sécurité morale, de leur dignité et de leur force. Ils savaient qu'un peuple obéissant devait nécessairement être un peuple invincible et invulnérable. Nulle arme ne pourrait les atteindre, aussi longtemps qu'ils seraient gouvernés par la parole de Dieu. Tout ce qu'ils avaient à faire était d'écouter, d'apprendre, de garder et de pratiquer la volonté révélée de Dieu. Ainsi, ils pouvaient compter sur lui et être assurés qu'il serait leur bouclier, leur force, leur refuge, leur tout. Différentes bases des relations de l'homme avec Dieu. Dans les versets 2 à 5, Moïse rappelle au peuple leur relation avec l'Éternel. Il dit « L'Éternel, notre Dieu, fit avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel a fait cette alliance, mais avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face, sur la montagne, du milieu du feu. Moi, je me tenais en ce temps-là entre l'Éternel et vous, pour vous déclarer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur à cause du feu, et vous n'êtes point monté sur la montagne. Disant, etc. Il est important de bien saisir la différence entre l'alliance faite avec Abraham, Isaac et Jacob, et celle qui a été traitée en Horeb. Elles sont essentiellement différentes. L'une était une alliance toute de grâce, par laquelle Dieu s'engageait avec serment à tenir tout ce qu'il avait promis. L'autre était une alliance pour les œuvres, le peuple s'engageant à faire tout ce que l'Éternel avait ordonné. Il y a une immense différence, à tous égards, entre ces deux alliances, que ce soit quant à leur base, à leur caractère ou à leur résultat. L'alliance d'Horeb reposait sur la capacité supposée de l'homme d'accomplir ses engagements. L'alliance faite avec Abraham reposait sur la capacité de Dieu d'accomplir ses promesses et, par conséquent, elle ne pouvait manquer en un seul point. Dans les notes sur le livre de l'Exode, nous avons cherché à montrer quel avait été le but de Dieu en donnant la loi et l'impossibilité où se trouve l'homme pécheur d'obtenir la vie ou la justice en la gardant. Nous renvoyons donc le lecteur à ce que nous avons déjà dit sur cet important sujet. Pour tous les chrétiens sincères, il ne fait aucun doute que la valeur morale de la loi est d'une application constante et universelle. Ainsi que l'apôtre Paul écrit, « La loi donc est sainte, et le commandement est saint, et juste, et bon. » Romains 7, verset 12. Mais beaucoup d'âmes pieuses considèrent la loi comme la base de leur relation avec Dieu. C'est une grave erreur. L'Écriture nous enseigne de la manière la plus claire que, comme enfants de Dieu, nous ne sommes pas du tout sur ce terrain-là. Le Juif y était, et il a montré qu'il ne pouvait s'y maintenir devant Dieu. C'était pour lui la mort et la condamnation. Les gentils n'ont jamais été sous la loi. Ils ont été placés sous le gouvernement humain en la personne de Noé. Au chapitre 10 des Actes, nous voyons Dieu ouvrant la porte du royaume aux nations. Puis au chapitre 14, il est rappelé comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Verset 27. Au chapitre 28, nous voyons Dieu proclamant son salut aux nations. Verset 28. Mais du commencement à la fin de la Bible, nous chercherions en vain un passage indiquant qu'il ait jamais placé les nations sous la loi. Les chrétiens et la loi. Le chapitre 15 du livre des Actes nous montre comment la première tentative faite pour placer les nations sous la loi a été blâmée à Jérusalem par les apôtres et par l'Église tout entière. La question avait été soulevée à Antioche. Mais Dieu, dans sa sagesse, dirigea tout pour que ce soit à Jérusalem, où Paul et Barnabas se rendirent, qu'elle soit discutée librement et finalement tranchée par la voix unanime des 12 apôtres et de l'Église tout entière. Le Seigneur veilla à ce que l'ennemi soit complètement confondu, et à ce que les docteurs de la loi de cette époque, et ceux de tous les temps, apprennent qu'il n'est pas du tout selon sa volonté que les chrétiens soient placés sous la loi. Ce sujet est tellement important que nous allons retracer les grandes lignes de ce chapitre. Et quelques-uns étant descendus de Judée, enseignaient les frères, disant « Si vous n'avez pas été circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Acte 15, verset 1. Quelle terrible nouvelle pour ceux qui avaient été convertis par un message tel que celui-ci. Sachez donc, hommes frères, que par lui vous est annoncée la rémission des péchés, et que de tout ce dont vous n'avez pu être justifié par la loi de Moïse, quiconque croit est justifié par lui. Acte 13, verset 38 et 39. Pas question de circoncision ou d'œuvre de loi d'aucune espèce. Tel était le glorieux message que l'apôtre Paul avait prêché, message d'un salut gratuit, immédiat et parfait, d'une entière rémission des péchés et d'une complète justification par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Or, d'après ce qu'enseignaient ces quelques-uns qui étaient descendus de Judée, tout cela était insuffisant. Christ n'était pas suffisant sans la circoncision et la loi de Moïse. Les pauvres gentils, qui peut-être n'avaient jamais entendu parler de Moïse, devaient ajouter la circoncision et l'observation de la loi à Christ et à son glorieux salut. Combien le cœur de Paul devait souffrir en voyant les bien-aimés disciples exposer un enseignement aussi pernicieux. C'était l'anéantissement complet du christianisme. Si la circoncision devait être ajoutée à la croix de Christ, si la loi de Moïse devait compléter ou supplanter la grâce de Dieu, alors tout était perdu. Mais Dieu suscita de nobles champions pour s'opposer à cette funeste doctrine. Une contestation s'étant donc élevée et une grande dispute entre Paul et Barnabas et eux, les docteurs judaïsants, ils résolurent que Paul et Barnabas et quelques autres d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour cette question. Et étant arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'assemblée et les apôtres et les anciens, et ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites avec eux. Et quelques-uns de la secte des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent disant qu'il faut les circoncire et leur enjoindre de garder la loi de Moïse. Acte 15, versets 2 à 5. D'où venait cette obligation? Pas de Dieu, qui leur avait dans sa grâce infinie ouvert la porte de la foi sans la circoncision ou l'obligation de garder la loi de Moïse. Non, c'était quelques hommes qui s'étaient permis de dire que ces choses étaient nécessaires. De tels hommes ont troublé l'Église de Dieu dès ce moment jusqu'à maintenant. Des hommes voulant être docteurs de la loi, n'entendant ni ce qu'ils disent, ni ce sur quoi ils insistent. 1 Timothée 1, verset 7. Les docteurs de la loi ne savent pas ce qui est impliqué dans leur triste enseignement. Ils ne se rendent pas compte combien leurs doctrines sont haïssables aux yeux du Dieu de toute grâce, du Père des miséricordes. Le chapitre des Actes, dont nous nous occupons, nous donne, avec une grande clarté, les pensées de Dieu à ce sujet. Il prouve sans aucune équivoque qu'il n'était pas selon Dieu de placer les nations sous la loi. Et les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire. Et une grande discussion ayant eu lieu, Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez vous-même que, dès les jours anciens, Dieu m'a choisi entre vous, afin que par ma bouche, les nations entendent la parole de l'Évangile et qu'elles croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage, leur ayant donné l'Esprit Saint comme à nous-mêmes. Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ?» Versets 6 à 10. Remarquez ceci. La loi avait été un joug intolérable pour les Juifs, qui y avaient été assujettis. Et c'était tenter Dieu de vouloir mettre ce joug sur le cou des chrétiens d'entre les nations. Mais, ajoute Pierre, nous croyons être sauvés par la grâce du Seigneur Jésus de la même manière qu'eux aussi. Verset 11. Combien ceci est concluant, d'autant plus que cela sortait de la bouche de l'apôtre de la circoncision. Et toute la multitude se tut, et ils écoutaient Barnabas et Paul qui racontaient quels miracles et quels prodiges Dieu avait fait par leurs moyens parmi les nations. Verset 12. L'Esprit n'a pas jugé bon de nous faire savoir ce qu'ont dit Paul et Barnabas en cette occasion mémorable, et nous en comprenons la raison. Son but est évidemment de donner la prééminence à Pierre et à Jacques, dont les paroles devaient avoir plus de poids auprès des docteurs de la loi que celles de l'apôtre des Gentils et de son compagnon. Et après qu'ils se furent tus, Jacques répondit disant « Homme frère, écoutez-moi. Siméon a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations pour en tirer un peuple pour son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit « Après ces choses, je retournerai et je réédifierai le tabernacle de David qui est tombé, et je réédifierai ses ruines et je le relèverai en sorte que le résidu des hommes recherche le Seigneur, et toutes les nations sur lesquelles mon nom est réclamé, dit le Seigneur, qui fait ces choses connues de tout temps. C'est pourquoi moi je suis d'avis de ne pas inquiéter ceux des nations qui se tournent vers Dieu. » Versets 13 à 19. Nous devons être frappés de voir que, dans cette imposante assemblée, nul ne parle avec plus de force et de clarté que Pierre et Jacques, l'un apôtre de la circoncision, l'autre celui dont le ministère s'adressait plus spécialement aux 12 tribus, et dont la position pouvait donner du poids à ses paroles, vis-à-vis des défenseurs du système légal. Ces deux hommes furent d'accord pour déclarer positivement que les nouveaux convertis d'entre les nations ne devaient pas être inquiétés ou chargés par la loi. Ils prouvèrent par leur discours qu'il était entièrement contraire à la parole et à la volonté de Dieu de placer les chrétiens d'entre les nations sous la loi. Si le lecteur désire connaître à fond les pensées de Paul sur le sujet de la loi, qu'il étudie l'Épître aux Galates. C'est là que l'apôtre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, épanche son cœur envers les nouveaux chrétiens en paroles ferventes et pleines de force et d'énergie. Il est étonnant qu'on puisse lire cette remarquable épître, puis persister à soutenir que les chrétiens sont sous la loi, en quelque manière que ce soit. À peine l'apôtre a-t-il terminé ses courtes paroles d'introduction, qu'il se plonge, avec son énergie habituelle, dans le sujet dont son cœur est aimant, mais affligé, et rempli jusqu'à déborder. « Je m'étonne, dit-il, de ce que vous passez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ à un évangile différent qui n'en est pas un autre. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais quand nous-mêmes ou quand un ange venu du ciel vous évangéliserait outre ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, maintenant aussi je le dis encore, si quelqu'un vous évangélise outre ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Galates 1, versets 6 à 9. Que tous ceux qui prêchent la loi méditent ces paroles. Elles paraissent sévères, mais souvenons-nous que ce sont les paroles mêmes du Saint-Esprit. Oui, Dieu lance son terrible anathème sur quiconque ose ajouter la loi de Moïse à l'évangile de Christ, ou quiconque essaie de placer les chrétiens sous la loi. Quelques personnes cherchent à arranger les choses en nous disant qu'elles n'usent pas de la loi comme d'un moyen de justification, mais comme d'une règle de conduite. Nous leur demanderons sur quoi elles se fondent pour oser décider quel usage nous devons faire de la loi. Ou nous sommes sous la loi, ou nous n'y sommes pas. Si nous y sommes, il ne s'agit pas de savoir comment nous la prenons, mais comment elle nous prend. Si nous sommes sous la loi, nous sommes sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. » Galates 3, verset 10. La loi s'adresse à l'homme pécheur comme être responsable. Elle exige une obéissance parfaite et prononce sa malédiction sur quiconque lui désobéit, ne serait-ce qu'en un seul point. Galates 5, verset 3, Jacques 2, verset 10 et 11. On dit aussi que si nous avons failli à garder toute la loi, Christ l'a accomplie à notre place. Argument sans valeur. La loi ne connaît pas l'obéissance par procuration. Son langage est « Celui qui aura fait ces choses vivra par elle. » Galates 3, verset 12. Je suis mort à la loi. Comment donc se fait-il que le chrétien ne soit pas sous la malédiction? Voici la réponse dans toute sa force morale et sa beauté. Car moi, par la loi, je suis mort à la loi afin que je vive à Dieu. Galates 2, verset 19. Dieu laisse la loi à sa place, mais met le croyant hors de son pouvoir et de ses atteintes, et cela par la mort. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi vous avez été mis à mort à la loi par le corps du Christ, pour être à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Romains 7, verset 4. Nous ne pourrions jamais porter de fruit pour Dieu si nous étions sous la loi. Car quand nous étions dans la chair, les passions des péchés, lesquelles sont par la loi, agissaient dans nos membres pour porter du fruit pour la mort. Verset 5. Remarquez la triste association sous la loi, dans la chair, les passions des péchés. Du fruit pour la mort. Mais grâce à Dieu, il y a un autre côté à la question. Mais maintenant, nous avons été déliés de la loi. Verset 6. Comment? Est-ce parce qu'un autre l'a accompli à notre place? Non, mais étant morts dans ce en quoi nous étions tenus, en sorte que nous servions en nouveauté d'esprit et non pas en vieillesse de l'être. Il y a une harmonie parfaite entre Romains 7 et Galates 2. Car moi, par la loi, je suis mort à la loi, afin que je vive à Dieu. Or, s'il est vrai, comme le dit l'apôtre, que nous sommes morts par le moyen de la loi, comment la loi pourrait-elle être la règle de notre vie? Elle n'a été qu'une règle de mort, de malédiction et de condamnation pour ceux qui lui étaient assujettis, pour Israël qui l'avait reçu. Pourrait-elle être autre chose pour nous? La loi n'a jamais produit un seul bon fruit chez un fils ou une fille d'Adam. En effet, quand nous étions dans la chair, c'est-à-dire dans notre nature déchue, les passions des péchés, lesquelles sont par la loi, agissaient dans nos membres pour porter du fruit pour la mort. Romains 7, verset 5. Où en sommes-nous maintenant comme chrétiens? Écoutez la réponse. Car moi, par la loi, je suis mort à la loi, afin que je vive à Dieu. Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, ici la chair signifie le corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, versets 19 et 20. Voilà le christianisme. La mort de Christ, comme si elle était la nôtre, nous délivre complètement de deux mots bien distincts. Du légalisme d'un côté, du laxisme de l'autre. Elle nous introduit dans la sainte liberté de la grâce, dans la liberté pour servir Dieu. Nous sommes invités à mortifier nos membres qui sont sur la terre, à renier l'impiété et les convoitises mondaines, à vivre sobrement, justement et pieusement. Méditons ces paroles. Je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Le vieux moi est mort, crucifié, enterré. Le nouveau moi est vivant en Christ. Mais prenons bien garde à ne pas changer la grâce de notre Dieu en dissolution. Jude 4. Dire qu'on est délivré de la loi autrement que par la mort à la loi et par la vie en Christ, ce n'est pas du christianisme du tout. C'est donner toute liberté à la chair. Si nous sommes morts à la loi, nous sommes aussi morts au péché, et par conséquent, nous ne devons pas faire notre propre volonté qui est péché, mais la volonté de Dieu qui est la vraie sainteté pratique. Souvenons-nous encore que, si nous sommes morts à la loi, nous sommes morts aussi à ce présent siècle mauvais et associés à un Christ ressuscité monté au ciel et glorifié. Nous ne sommes donc pas du monde, comme Christ n'était pas du monde. Chercher à se faire une position dans le monde, c'est renier le fait que nous sommes morts avec Christ. La mort de Christ nous a délivrés de la loi, de la puissance du péché et de ce présent siècle mauvais. Mais toutes ces choses se lient, et nous ne pouvons être délivrés de l'une sans l'être de toutes. Prétendre être libérés de la loi tandis qu'on vit dans la chair et dans la mondanité, c'est user de la liberté comme d'une occasion pour la chair. Galates 5, verset 13. Le chrétien est appelé à prouver dans sa vie journalière que la grâce peut produire des résultats auxquels la loi n'a jamais pu atteindre. C'est une des gloires morales du christianisme de rendre un homme capable d'abandonner son « moi » et de vivre pour les autres. C'est ce que la loi n'a jamais pu faire. Sous son empire, chacun devait faire de son mieux en vue de soi-même. Si un homme essayait d'aimer son prochain, c'était pour s'acquérir une justice propre. Sous la grâce, tout est glorieusement le contraire. Le « moi » est mis de côté comme une chose condamnée, crucifiée, morte et ensevelie. Le vieux « moi » a disparu et le nouveau « moi » est devant Dieu dans toute la valeur et la perfection de Christ. C'est lui qui est notre vie, notre sainteté, notre justice, notre but, notre modèle, notre tout. Il est en nous et nous sommes en lui. Notre vie pratique de chaque jour doit simplement être Christ, reproduit en nous par la puissance du Saint-Esprit. Nous ne devons donc pas aimer seulement notre prochain, mais aussi nos ennemis, et cela non pour nous acquérir une justice, car nous sommes devenus la justice de Dieu en Christ, mais parce que la vie que nous possédons déborde, et cette vie est Christ. Un chrétien est un homme qui devrait vivre Christ. Il n'est ni un juif sous la loi, ni un gentil sans loi, mais il est un homme en Christ, placé dans la grâce, appelé à la même obéissance que celle dans laquelle a vécu le Seigneur Jésus lui-même. Que Dieu veuille ouvrir les yeux de tous les chrétiens à la vérité de ces choses. Les 10 commandements. Dans ce chapitre 5 du Deutéronome, nous trouvons les 10 commandements, mais ils sont présentés un peu autrement que dans le chapitre 20 de l'Exode. Comparons par exemple les deux passages qui traitent du sabbat. En Exode 20, nous lisons « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le sabbat consacré à l'Éternel ton Dieu. » Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Versets 8 à 11. En Deutéronome 5, nous lisons Garde le jour du sabbat pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. 6 jours tu travailleras et tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le sabbat consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni ton étranger qui est dans tes portes. Afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi, et tu te souviendras que tu as été serviteur dans le pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir de là à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé de garder le jour du sabbat. Versets 12 à 15. Dans l'Exode, le commandement de garder le jour du repos est basé sur la création. Dans le Deutéronome, il est basé sur la rédemption. Sans la moindre allusion à la création. Les points de différence proviennent du caractère distinct de chaque livre. Dans le Deutéronome, le législateur présente des motifs moraux et il fait des appels au cœur et à la conscience. La place particulière du sabbat. Remarquons que l'institution du sabbat repose entièrement sur l'autorité immédiate de la parole de Dieu. D'autres commandements prescrivent de simples devoirs moraux. Chacun sait que c'est moralement mal de tuer ou de voler, mais à garder le sabbat, nul n'aurait vu un devoir si cela n'avait pas été expressément ordonné par l'autorité divine. De là son immense importance et son intérêt. Dans notre chapitre et en Exode 20, il est placé sur le même plan que les grands devoirs moraux qui sont universellement reconnus par la conscience humaine. Bien plus, nous voyons en plusieurs autres endroits de l'Écriture que le sabbat est présenté comme un lien entre l'Éternel et Israël, comme le sceau de son alliance avec eux et le signe de leur consécration à lui. Ceux-là seulement qui aimaient l'Éternel et sa parole, aimaient et gardaient ses sabbats. En Exode 16, en rapport avec l'envoi de la manne, nous lisons « Le 6e jour, ils recueillirent du pain au double, 2 homères pour chacun. » Et tous les principaux de l'assemblée vinrent et le rapportèrent à Moïse. Et il leur dit, « C'est ici ce que l'Éternel a dit. Demain est le repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à cuire, et faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et tout le surplus, serrez-le pour vous, pour le garder jusqu'au matin. » Et Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car aujourd'hui est le sabbat consacré à l'Éternel. » Aujourd'hui, vous n'en trouverez point au champ. 6 jours vous en recueillerez, mais au 7e jour est le sabbat. Il n'y en aura point en ce jour-là. Versets 22 à 26. Ils étaient cependant si peu capables d'apprécier le privilège d'avoir à garder le sabbat de l'Éternel, qu'il arriva, le 7e jour, que quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, et ils n'en trouvèrent point. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusques à quand ? « Refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois ?» Le fait qu'ils négligeaient le sabbat prouvait que leur état moral était mauvais, qu'ils s'étaient détournés des commandements de Dieu. Le sabbat était la pierre de touche de l'état réel de leur cœur envers l'Éternel. Moïse ajoute, « Voyez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour du pain pour 2 jours. Que chacun reste chez lui. Que personne ne sorte du lieu où il est. » Le 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. Versets 27 à 30.
Une institution exclusivement juive.
À la fin du chapitre 31 de l'Exode, nous trouvons un passage bien remarquable qui montre l'importance que l'Éternel attachait à l'observation du sabbat. Une description détaillée du tabernacle et de ses ustensiles avait été donnée à Moïse, et il allait recevoir les deux tables du témoignage de la main de l'Éternel. Mais, comme pour prouver la place éminente que le sabbat occupait dans la pensée de Dieu, il nous est dit « Et l'Éternel parla à Moïse, disant « Toi, parle aux fils d'Israël, disant « Certainement, vous garderez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, en vos générations, pour que vous sachiez que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Et vous garderez le sabbat, car il vous sera saint. Celui qui le profanera sera certainement mis à mort, car quiconque fera une œuvre en ce jour-là, cette âme sera retranchée du milieu de ses peuples. Pendant 6 jours le travail se fera, et le 7e jour est le sabbat de repos consacré à l'Éternel. Quiconque fera une œuvre le jour du sabbat sera certainement mis à mort. Et les fils d'Israël garderont le sabbat pour observer le sabbat en leur génération. Une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les fils d'Israël à toujours. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le 7e jour, il s'est reposé et a été rafraîchi. Exode 31, versets 12 à 17. Le sabbat a été distinctement et exclusivement institué pour la nation juive. Il est mentionné à diverses reprises comme étant un signe entre l'Éternel et son peuple Israël, mais il ne concernait en aucune manière les nations. Nous verrons par la suite que c'est un beau type du temps du rétablissement de toutes choses, du repos millénaire. Mais cela n'ôte rien au fait qu'il est exclusivement une institution juive. Il n'y a pas, dans toute l'Écriture, un seul passage indiquant que le sabbat concerne aussi les gentils. On allègue que, puisque le sabbat est déjà mentionné dans le 2 chapitre de la Genèse, il doit nécessairement avoir une application plus générale qu'à la nation juive. Voyons le passage. « Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il fit, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il fit. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour il se reposa de toute son œuvre que Dieu créa en la faisant. » Versets 2 et 3. Voilà qui est bien simple. Il n'est pas fait mention ici de l'homme. Il ne nous est pas dit que l'homme se reposa le 7e jour. Bien plus, nous ne voyons pas dans tout le livre de la Genèse une seule allusion au sabbat. La première fois qu'il en est fait mention, c'est au chapitre 16 de l'Exode, passage que nous avons déjà cité. Or, là, nous voyons qu'il fut donné à Israël comme à un peuple qui était en relation d'alliance avec l'Éternel. Il est évident qu'ils ne surent ni le reconnaître, ni l'apprécier. Arrêtons-nous encore sur les premiers versets de Lévitique 23. « Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, « Les jours solennels de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Ce sont ici mes jours solennels. 6 jours, on travaillera, et le 7e jour est un sabbat de repos, une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre. » C'est un sabbat consacré à l'Éternel dans toutes vos habitations. Versets 1 à 3. Le sabbat est ici placé en tête de toutes les fêtes solennelles énumérées dans ce merveilleux chapitre et qui sont pour nous les types de toutes les dispensations de Dieu envers son peuple. Le sabbat est le type du repos éternel dans lequel Dieu introduira son peuple quand toutes ses tribulations auront pris fin. De ce repos sabbatique qui reste pour le peuple de Dieu. Hébreux 4, verset 9. L'Éternel cherchait constamment à rappeler ce glorieux repos à son peuple. Le 7e jour, la 7e année, l'année du jubilé, toutes ces belles fêtes sabbatiques avaient pour but de typifier l'époque bénie où Israël sera rassemblé dans son pays et où le sabbat sera observé comme il ne l'a encore jamais été. Le sabbat incompris et dénaturé par les Juifs. Hélas, Comme nation, Israël n'observa jamais le sabbat comme Dieu le désirait. Écoutons ce que dit Ésaïe. Ne continuez pas d'apporter de vaines offrandes. L'encens m'est une abomination. La nouvelle lune et le sabbat, la convocation des assemblées, je ne puis supporter l'iniquité et la fête solennelle. Chapitre 1, verset 13. Alliés à leur iniquité, la précieuse institution du sabbat était devenue, entre leurs mains, un instrument de propre justice, une abomination que Dieu ne pouvait plus supporter. Si nous ouvrons les pages du Nouveau Testament, nous voyons les chefs et les docteurs du peuple juif constamment en guerre avec le Seigneur Jésus à propos du sabbat. Lisez par exemple Luc 6, versets 1 à 11. Ces conducteurs religieux voulaient que les disciples endurent la faim plutôt que d'enfreindre leur sabbat. Ils auraient préféré voir l'homme emporter sa main sèche au tombeau plutôt que de le voir guérir le jour de leur sabbat. Hélas, c'était bien leur sabbat et non celui de Dieu. Son repos ne pouvait s'allier avec la faim et les membres desséchés. Ils ne comprenaient pas que les institutions légales doivent céder le pas à la grâce divine venant au-devant des besoins de l'homme. La grâce, avec toute sa splendeur, s'élève au-dessus de toutes les barrières légales, et la foi se réjouit à sa lumière. Mais la religiosité s'offense de l'activité de la grâce et de la hardiesse de la foi. Le commencement du chapitre 5 de Jean illustre d'une manière remarquable la condition d'Israël. Le réservoir de Bethesda est une image de toute la famille humaine et de la nation d'Israël, de leur condition morale et spirituelle. Des aveugles, des infirmes, des boiteux, des gens avec des membres secs, tel est le réel état de l'homme. Mais il y avait au milieu de cette multitude d'infirmes un homme dont l'état de faiblesse et d'épuisement était tel que le réservoir de Bethesda ne pouvait rien pour lui. Il espérait toujours obtenir un secours humain pour parvenir au réservoir. Mais chacun, image frappante de tous ceux qui cherchent le salut par les œuvres, faisait de son mieux pour soi-même. Nul souci des autres, nulle pensée de leur venir en aide. Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton petit lit et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri, et il prit son petit lit et marcha. Or, c'était sabbat ce jour-là. Versets 8 et 9. La multitude réunie autour du réservoir prouvait que le temps du repos de Dieu n'était pas encore venu. Lorsque ce beau jour paraîtra, il n'y aura plus d'aveugles, de boiteux, ni d'infirmes sous les portiques du réservoir de Bethesda. À cause de cela, les Juifs persécutaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait ces choses en un jour de sabbat. Verset 16. Quel spectacle ! Les chefs et les docteurs de la religion, les conducteurs du peuple de Dieu, cherchent à faire mourir le Seigneur du sabbat parce qu'il avait guéri un homme le jour du sabbat. Mais observez la réponse de notre Seigneur au verset 17. « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi je travaille. » Cette parole merveilleuse nous donne la clé de toute l'affaire. Elle nous dévoile la vraie condition de l'humanité, celle d'Israël en particulier. Et elle nous présente le grand secret de la vie et du ministère de notre Seigneur. Il n'était pas venu dans ce monde pour se reposer. Comment aurait-il pu se reposer, entouré comme il l'était de toutes les misères humaines? Comment l'amour divin aurait-il pu se reposer au milieu d'un tel état de choses? Depuis le moment où l'homme est tombé, le Père avait travaillé. Puis le Fils avait paru pour continuer l'œuvre. Le Seigneur Jésus allait faisant du bien le jour du sabbat, tout comme les autres jours. Et lorsqu'enfin il eut achevé l'œuvre glorieuse de la rédemption, il passa le sabbat dans le tombeau et ressuscita le premier jour de la semaine, comme le premier-né d'entre les morts, chef d'une nouvelle création dans laquelle tout est de Dieu. La mort de Christ a mis fin à l'ancien ordre de choses, et sa résurrection nous introduit dans une sphère entièrement nouvelle, où nous avons le privilège de marcher à la lumière et dans la puissance des réalités éternelles qui nous appartiennent. Le sabbat et le christianisme. Nous avons déjà remarqué que notre Seigneur a passé le jour du sabbat dans le tombeau. Ce fait a une profonde signification. Nous y lisons la mise de côté de l'ancien ordre de choses et la complète impossibilité d'observer un sabbat dans un monde de péché et de mort. L'amour ne pouvait se reposer dans un monde tel que celui-ci. Il ne pouvait que travailler et mourir. C'est ce que nous lisons sur la tombe où le Seigneur du sabbat fut déposé. Si nous étudions les Actes des apôtres, nous verrons que le sabbat et le premier jour de la semaine sont mentionnés d'une manière tout à fait distincte. Le jour du sabbat, nous voyons les Juifs assemblés dans leur synagogue pour la lecture de la loi et des prophètes. Le premier jour de la semaine, nous voyons les chrétiens assemblés pour rompre le pain. Ces deux jours sont aussi distincts que le judaïsme et le christianisme, et rien ne peut faire supposer que le sabbat se soit jamais confondu avec le premier jour de la semaine. Le repos d'Éden était le septième jour. Le repos pour l'Israël était le septième jour. Mais le huitième attire nos pensées vers l'éternité, et dans le Nouveau Testament, il est appelé le premier jour de la semaine, comme marquant le commencement du nouvel ordre de choses dont la croix est la base et dont le Christ ressuscité est la tête glorieuse et le centre. L'Église, bien que sur la terre, n'est pas de ce monde, tout comme Christ n'est pas de ce monde. Elle est céleste dans son origine, son caractère, ses principes, sa marche et ses espérances. Elle est placée entre la croix et la gloire. Les limites de son existence sur la terre sont le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu pour la former, et la venue de Christ pour la prendre auprès de lui. Rien ne saurait être plus clair. C'est donc fausser la position du chrétien tout entière que de vouloir forcer l'Église de Dieu à observer des jours et des mois et des temps et des années. Galates 4, verset 10. C'est porter atteinte à la révélation divine et priver le chrétien de la place qui lui appartient par la grâce infinie de Dieu et par la rédemption accomplie par Christ. L'apôtre Paul dit aux Colossiens « Que personne donc ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire, ou à propos d'un jour de fête ou de nouvelle lune, ou de sabbat, qui sont une ombre des choses à venir. Mais le corps est du Christ. » Colossiens 2, versets 16 et 17. Un chrétien n'a plus rien à faire au point de vue religieux avec le manger, le boire, les jours de fête ou les sabbats qui appartenaient aux ombres du judaïsme. Que sont les ombres pour celui qui a saisi par la foi la substance éternelle? Rien, absolument. C'est pourquoi aussi l'apôtre continue « Si vous êtes mort avec Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous étiez encore en vie dans le monde, établissez-vous des ordonnances ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, choses qui sont toutes destinées à périr par l'usage, etc. » Chapitre 2, versets 20 à 22. Si l'on comprend bien l'esprit de ces passages, on sera au clair non seulement sur la question du sabbat, mais encore sur tout le système de choses qui s'y rapportent. Le chrétien qui a bien saisi quelle est sa position en a fini pour toujours avec toute question religieuse au sujet du manger, du boire, des jours, des mois, des temps et des années. Il n'a rien à faire avec les saintes époques ni avec les saints lieux. Il est mort avec Christ aux éléments du monde et comme tel, il est délivré de toutes les ordonnances d'une religion traditionnelle. Il est du ciel, où il n'y a ni nouvelle lune, ni jour de fête, ni sabbat. Il appartient à la nouvelle création, où toutes choses sont de Dieu. Son oreille a été ouverte pour entendre, et son cœur pour comprendre, la puissante exhortation de l'apôtre inspiré. Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ qui est notre vie sera manifesté, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui en gloire. Colossiens 3, versets 1 à 4. Nous avons ici le contraste frappant de quelques-unes des gloires du vrai christianisme avec les formes stériles et desséchantes d'une religiosité charnelle et mondaine. La vie chrétienne ne consiste pas en l'observation de certaines ordonnances. C'est Christ dans le cœur et Christ reproduit dans la vie de chaque jour par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'homme nouveau, formé d'après le modèle de Christ lui-même et se révélant dans les moindres détails de notre conduite. Le sabbat est le jour du Seigneur. Il n'est pas nécessaire, croyons-nous, d'en dire davantage sur la question du sabbat. Si le lecteur a bien saisi le sens des passages qui ont été cités, il verra sans peine quelle est la place que le sabbat occupe dans les dispensations de Dieu. Il comprendra qu'il se rapporte directement à Israël et à la terre, qu'il est un signe de l'alliance entre l'Éternel et son peuple terrestre, et une importante pierre de touche de leur état spirituel. Il verra qu'Israël n'observa jamais réellement le sabbat, n'en comprit jamais la signification, n'en apprécia jamais la valeur. C'est ce qui fut rendu évident dans la vie, le ministère et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel accomplit nombre de ses œuvres de miséricorde le jour du sabbat, et finalement passa cette journée dans le tombeau. Enfin, il comprendra quelle différence il y a entre le sabbat juif et le premier jour de la semaine, ou le jour du Seigneur, lequel n'est pas une seule fois appelé sabbat dans le Nouveau Testament, mais est, au contraire, constamment mentionné de façon distincte. Ce n'est pas le sabbat transformé et transféré à un autre jour, mais un jour entièrement nouveau, ayant sa propre identité et sa raison d'être, laissant le sabbat complètement de côté, comme une institution suspendue momentanément pour être reprise par la suite lorsque la postérité d'Abraham sera rentrée de nouveau dans la terre promise. Voyez Ézéchiel 46, versets 1 et 12. Disons encore quelques mots de la place assignée dans le Nouveau Testament au jour du Seigneur, ou premier jour de la semaine. Notre Seigneur est ressuscité d'entre les morts ce jour-là. Il a rencontré plusieurs fois ses disciples en ce jour. Les apôtres et les frères à Troas se réunissaient pour rompre le pain ce même jour. Acte 1, verset 7. L'apôtre ordonne aux Corinthiens et à tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de déposer leurs offrandes ce jour-là. Le premier jour de la semaine était donc le jour spécial où le peuple de Dieu devait se réunir pour prendre la scène du Seigneur, le culte, la communion et le ministère se trouvant ainsi liés à cette précieuse institution. L'apôtre Jean nous dit aussi que ce fut dans la journée dominicale qu'il fut en esprit et qu'il reçut la révélation merveilleuse qui clôt le volume divin. Apocalypse 1, verset 10. Nous avons donc des preuves évidentes que le jour du Seigneur ne doit pas être mis au même niveau que les jours ordinaires. Pour le vrai chrétien, c'est le jour dans lequel les rachetés de Christ se réunissent avec joie autour de sa table pour annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Nous n'avons pas de commandement direct touchant l'observation de ce jour, mais les passages auxquels nous avons fait allusion suffiront à tout cœur spirituel. Et nous dirons en outre que les instincts de la nature divine pousseront tout vrai chrétien à honorer le jour du Seigneur, à l'aimer et à le mettre à part pour le culte et le service de Dieu. Nous croyons que c'est un saint privilège que de pouvoir se retirer, autant que possible, de toutes les distractions de la terre pour consacrer les heures du jour du Seigneur à lui-même et à son service. Assurément, le chrétien doit consacrer chaque jour au Seigneur. Nous lui appartenons dans le sens le plus complet et le plus élevé. Tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes lui appartient. Nous sommes appelés à faire tout en son nom et pour sa gloire tous les jours. C'est notre privilège de tout faire comme étant devant ses yeux, dans la crainte et l'amour de son nom. Nous ne devrions jamais, quelques jours de la semaine que ce soit, mettre la main à une chose quelconque sur laquelle nous ne pouvons pas, en toute confiance, demander la bénédiction du Seigneur. Mais en même temps, nous devons laisser au jour du Seigneur sa place unique. Il a une signification et une importance que ne peut s'approprier aucun autre jour de la semaine. Un cœur pour craindre l'Éternel. Nous recommandons à nos lecteurs de lire attentivement les versets 22 à 33 qui terminent le chapitre 5 du Deutéronome. Après avoir présenté au peuple les 10 commandements, Moïse leur rappelle les circonstances solennelles qui avaient accompagné le don de la loi, de même que ce qu'ils avaient éprouvé et exprimé à cette occasion. Le grand principe du livre du Deutéronome est exprimé par le verset 29, qui est comme le noyau de ce passage. « Oh, s'ils avaient toujours ce cœur-là pour me craindre et pour garder tous mes commandements, afin de prospérer, eux et leurs fils, à toujours. » C'est aussi le secret de la vie que, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre jour après jour, une vie d'obéissance simple, provenant d'un cœur qui craint le Seigneur, et avec l'amour vrai et respectueux que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs. C'est là ce qui réjouit notre Père. Il nous dit « Mon Fils, donne-moi ton cœur. » Proverbe 23, verset 26. Quand le cœur est donné, tout vient ensuite, sans peine. Un cœur qui aime Dieu trouve sa plus grande joie à obéir à tous ses commandements. Ce qui a de la valeur pour Dieu, c'est ce qui découle d'un cœur dévoué. C'est du cœur que procèdent les sources de la vie. Si donc il est gouverné par l'amour de Dieu, il éprouve le besoin et le désir d'obéir à tous ses commandements. Nous aimons ses commandements parce que nous l'aimons lui. Chacune de ses paroles est précieuse au cœur qu'il aime. On trouve au psaume 119 l'exemple d'une âme qui est à l'unisson avec ses paroles. « Oh, s'ils avaient toujours ce cœur-là pour me craindre et pour garder tous mes commandements !» Ce psaume est l'expression d'un cœur qui trouve ses délices en la loi de Dieu. Presque chacun de ces 176 versets, sous une forme ou une autre, mentionne la parole de Dieu. Plusieurs des paroles de ce psaume ont été prononcées par notre Seigneur lui-même lorsqu'il était sur la terre. Il vivait de la parole. Elle était la nourriture de son âme, l'instrument de son ministère, son autorité en toutes choses. C'est par elle qu'il était victorieux de Satan, qu'il enseignait ses disciples, et qu'il réduisait au silence les Sadducéens, les Pharisiens et les Hérodiens. Nous voyons le Seigneur en appeler en toute occasion à la parole, comme à une autorité divine et irrévocable. Quoiqu'il soit lui-même Dieu et l'auteur du volume, cependant, ayant pris sa place comme homme sur la terre, il montre constamment que c'est le devoir et le privilège de l'homme de vivre de la parole de Dieu et de se soumettre à son autorité. Faut-il attendre la conversion du monde? Combien de docteurs et écrivains, soi-disant chrétiens, ont l'audace d'attaquer la grande vérité fondamentale de l'inspiration des Écritures, celle des cinq livres de Moïse en particulier? Les raisonnements blasphématoires de l'incrédulité se multiplient autour de nous. En même temps, on veut nous faire croire que tout va progressant. L'observation et l'expérience montrent avec évidence que les choses sont loin de progresser, et on ne saurait trouver une seule ligne de l'Écriture indiquant que le système actuel sera marqué par une amélioration générale dans la religion, la politique, la morale ou la société. Le témoignage de la Bible du commencement à la fin prouve que l'état actuel des choses empirera jusqu'à ce que les brillants rayons de la gloire millénaire viennent réjouir la terre oppressée. Et il faut avant cela que l'épée du jugement accomplisse son œuvre terrible. Si nous voulions citer les passages à l'appui de cette affirmation, nous remplirions un volume, car ils forment une large part des écrits prophétiques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Celui qui vient avec la simplicité d'un petit enfant à la pure source de la Sainte Écriture acquiert une conviction claire et certaine que le monde ne se convertira pas par le moyen de l'évangile de paix. Au contraire, ce sera la verge de la destruction qui préparera la terre pour la gloire millénaire. Nous nous réjouissons de tous les efforts qui sont faits pour répandre le précieux évangile de la grâce de Dieu, et nous rendons grâce pour chaque âme amenée au salut. Nous sommes heureux à la pensée que des millions de Bibles sont répandues sur la terre. Cependant, cela n'amènera pas la conversion du monde. Quel est donc le but de l'Évangile? Jacques, dans son discours au Concile de Jérusalem, répond d'une manière directe à cette question. Il dit « Siméon a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations pour en tirer un peuple pour son nom. » Acte 15, verset 14. Rien ne saurait être plus clair. Voilà ce que devrait être le but de tous les efforts missionnaires, de tirer d'entre les nations un peuple pour Dieu. Notre Seigneur a dit à ses apôtres, « Allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. » Marc 16, versets 15 et 16. Le monde devait être leur sphère d'activité. Leur message s'adressait à toute la création. Mais son résultat n'était que pour ceux qui avaient cru. C'était avant tout une affaire individuelle. L'œuvre actuelle de Dieu par l'Évangile a pour résultat le rassemblement d'un peuple pour le ciel. Le Saint-Esprit descendit du ciel le jour de la Pentecôte, non pas pour convertir le monde, mais pour le convaincre du péché d'avoir rejeté le Fils de Dieu. Jean 16, versets 8 à 11. L'effet de sa présence était de montrer que le monde était coupable. Appliquer ce passage à l'œuvre de l'Esprit dans les individus est une erreur. Il est question de l'effet de sa présence par rapport au monde en général. Son œuvre dans l'âme est une précieuse vérité, mais ce n'est point cette vérité qui est enseignée dans ce passage. Le grand but de la mission du Saint-Esprit était de former un corps composé de croyants tirés d'entre les Juifs et les Gentils. Or, c'est de ceci qu'il s'occupe depuis près de 2000 ans. Tel est le mystère dont l'apôtre Paul fut fait ministre et qu'il explique et développe particulièrement dans son épître aux Éphésiens. La conversion du monde et la formation du corps de Christ sont deux choses totalement différentes. Le lecteur verra par des passages tels que Éphésiens 3, versets 1 à 10, Colossiens 1, versets 23 à 29, et par d'autres encore, quel était le but spécial du ministère de Paul. Il savait et enseignait que le monde mûrissait rapidement pour le jugement, que les hommes méchants et imposteurs iraient de mal en pis, de Timothée 3, verset 13, que, au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée, défendant de se marier, prescrivant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées, pour être prise avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité. 1 Timothée 4, versets 1 à 3. Plus loin, il est dit que, dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. De Timothée 3, versets 1 à 5. Ce tableau nous reporte à la fin du premier chapitre de l'Épître aux Romains, où la même plume inspirée nous dépeint les mœurs du paganisme, mais avec cette différence terrible que, dans la seconde Épître à Timothée, il ne s'agit plus du paganisme, mais de la chrétienté, qui a une forme de piété. Telle sera la fin de l'état de choses actuel. L'Église professante a honteusement failli. Elle s'est éloignée de la parole de Dieu et s'est rebellée contre l'autorité de son Seigneur. Il n'y a pas le moindre rayon d'espoir pour elle. L'apôtre Paul nous dit aussi « Le mystère d'iniquité opère déjà. Seulement, celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. » Et alors sera révélé l'inique, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue, duquel la venue est selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles, et signes, et prodiges de mensonges, et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tout cela soit jugé qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. De Thessaloniciens 2, versets 7 à 12. Qu'il est terrible le sort de la chrétienté. Mais à tous ceux qui appartiennent à Christ, l'apôtre peut s'adresser avec des paroles encourageantes. Mais nous, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur, de ce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, dans la sainteté de l'esprit et la foi de la vérité, à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous obteniez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. De Thessaloniciens 3, versets 13 et 14. Voilà Quelle est la vraie espérance de l'Église de Dieu? Espérance qu'il voudrait toujours voir luire dans les cœurs de ses bien-aimés enfants avec une puissance purifiante et sanctifiante.